Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Une émission sans madeleine et sans cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au festin après les annonces mercredi soir du président de la République et la mise en place d'un couvre-feu dans 8 métropoles. Un couvre-feu qui a démarré hier à minuit pour une durée de 4 semaines et qui a provoqué une vive réaction dans le monde de la restauration. Il faut dire que le secteur est au bord du sinistre. Déjà durement touché par le confinement des mois de mars et d'avril et par ses conséquences économiques. Même si les restaurateurs ont bénéficié d'aides exceptionnelles de la part du gouvernement et que de nouveaux dispositifs doivent être mis en place. La restauration entre colère et désolation, c'est notre plat du jour. Avec en creux cette question quand même, comment faire face ? Trois invités sont avec nous. Merci beaucoup à tous les trois déjà d'avoir accepté cette invitation. Au téléphone, depuis Toulouse, Michel Sarran. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Chef du restaurant éponyme à Toulouse, une des villes concernées par le couvre-feu, juré de Top Chef depuis 2015. Et vous êtes également, je crois, copropriétaire du café-brasserie Café Emma à Barcelone. Au téléphone également avec nous, Amandine Chéniaud du restaurant La Pouliche dans le 10e arrondissement de Paris. Bonjour Amandine Chéniaud.
Bonjour à tous.
C'est un restaurant qui a ouvert en septembre 2019. Et puis autour de la table avec nous, Jonathan Caron, bonjour.
Bonjour à tous.
Et bienvenue, vous êtes gérant et directeur de salle de l'Innocence à Paris, qui a ouvert ses portes le 2 avril 2018 et qui se trouve rue de la Tour d'Auvergne dans le 9e arrondissement. Une première question à tous les trois, je vais peut-être commencer par Amandine Chéniaud, puisque votre restaurant est le plus récent de tous. Est-ce que vous êtes encore ouvert, Amandine Chéniaud ? Est-ce que vous avez passé la barrière du confinement du printemps déjà ?
Oui, alors juste une toute petite rectification, on a ouvert fin octobre 2019, donc encore moins...
Encore plus récemment.
Encore plus récemment, voilà. Moi j'ai un tempérament un peu combatif, donc tant qu'on ne m'oblige pas à fermer de toutes les manières qu'il soit, j'arrive à me faufiler entre les mailles du filet pour continuer à avoir une activité. Enfin, c'est pas concevable pour moi de fermer mon restaurant alors qu'on n'a même pas un an d'activité. Donc là, on est toujours ouvert. On s'est battu pendant le confinement. On a vendu des paniers de légumes, du poisson, des carrés d'agneau de la ferme en circuit court. Tout ça pour être aussi solidaire des fournisseurs et des maraîchers, producteurs, éleveurs avec lesquels on travaille. Et là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à trouver des nouvelles façons de travailler pour continuer de vivre. Ouais. Continuer d'être ouvert.
Et pour relever le défi, oui. On viendra aux solutions, évidemment, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission. Michel Sarran, on vous a entendu avant les annonces de mercredi soir du couvre-feu. On vous a déjà entendu pendant le confinement. J'aimerais bien que vous nous disiez comment vous avez reçu les annonces de mercredi soir.
Ah ben, je les ai reçues de façon violente, même si, et quand même, je tiens à le préciser, on est très sensible à ce qui se passe et aux problèmes sanitaires. Hein. Bien sûr, comme tout le monde, ça, on ne peut pas l'évacuer. Après, on l'a pris comme... une espèce d'injustice avec un peu de colère parce que quand même je trouve que on stigmatise un peu trop nos professions et donc de la colère, un peu d'incompréhension et puis aussi une crainte parce que même si moi j'ai ouvert il y a 25 ans, il y a quand même des bases, il y a une solidité mais une solidité qui est somme toute assez fragile et ça met tout un modèle économique à plat. Et une grosse incompréhension parce que j'ai toujours du mal à concevoir pourquoi nos établissements sont comme ça montrés du doigt, surtout quand on fait la restauration gastronomique, qu'on a 45 ouverts avec des espaces assez larges et que l'on a appliqué les protocoles qu'on nous a imposés, qui ont été quelquefois un peu coûteux, et qu'à côté, on voit ce qui se passe et on voit des endroits et des secteurs où les regroupements sont courants et quotidiens, et où on se dit, mais il y a autant de dangers, comment se fait-il, quoi? Donc, c'est tout ça, la règle des 6 évoquée par le président, ça fait rêver. Ce matin, j'ai pris un bus et pour vous assurer que c'était plutôt la règle des boîtes de sardines, quoi. C'est un peu dur à accepter, je trouve. C'est un peu dur à accepter de se retrouver comme ça au pilori et je sais que pour bon nombre, en tout cas en province, pour bon nombre de restaurateurs, en province, dans les villes de province, c'est un peu compliqué, quoi. Pour pas dire très compliqué.
On a pu lire que les restaurants avaient plutôt bien passé le cap de l'été, le chiffre d'affaires ne s'étant finalement contracté que, je mets le que évidemment entre guillemets, de 6,5%, alors que la situation en effet semble beaucoup plus compliquée à Paris, où la baisse du chiffre d'affaires, Jonathan Caron, avoisine les 20%.
Même plus. Plus, parce que 20% pour des restaurants qui ont 200 couverts ou qui font 50 couverts et qui puissent mettre la 50% de leur masse salariale au chômage partiel. Donc il y a un rééquilibre. Moi, je parle pour les petits restaurants, pour l'ensemble de tous les petits restaurants, pas que les étoilés.
Vous avez combien de couverts, vous, aujourd'hui?
Moi, j'avais 18 couverts et maintenant, je fais 8 couverts. Donc, malheureusement, la cuisine que mes chefs sortent, je ne peux pas mettre une chef au chômage partiel, sinon ce n'est pas la même qualité. Donc, ça va se ressentir. Donc, moi, je suis obligé de garder les deux plus gros salaires. Et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits restaurateurs. Nous, malheureusement, depuis la réouverture, on n'a fait que perdre de l'argent ou avoir un rééquilibre.
Amandine Chéniaud, Michel Sarran disait injustice, colère, incompréhension. Est-ce que vous utiliseriez les mêmes mots?
Alors, moi, je suis un peu moins dans la colère. C'est très difficile à accepter, effectivement. Ça m'attriste énormément. Ça m'inquiète. En revanche, j'ai tendance à dire que je ne suis pas scientifique. Je pense qu'il y a quand même une certaine confiance. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une certaine confiance dans les décisionnaires. Ce que je déplore, en revanche, c'est les problèmes de communication. À chaque fois, on est mis au pied du mur avec des mesures qui sont applicables très, très rapidement.
Vous n'avez pas le temps de vous préparer, vous voulez dire?
C'est un peu compliqué, quoi. Quand même, la fermeture du mois de mars, c'était quand même très violent. Enfin, clairement, on était tous... moi, je sentais qu'il y a quelque chose qui allait arriver. J'étais pendue à mon téléphone et effectivement... et de s'organiser à chaque fois quand on a des mesures qui sont quand même assez lourdes en termes de conséquences, c'est toujours une gymnastique très fatigante qui a beaucoup de conséquences à plein de niveaux en fait pour nous, nos entreprises. On n'est pas juste la fournisseur d'un service. En fait, il y a toute une chaîne de production, il y a des machines à remettre en marche et c'est compliqué de naviguer comme ça du jour au lendemain avec ces mesures.
C'est le même ressenti que j'ai. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Amandine. C'est qu'il faut rester positif parce qu'il faut toujours se dire qu'on n'est pas à la place des personnes qui prennent les décisions. Mais il faut aussi en contrepartie, c'est de dire qu'ils pensent pas réellement à nous en se disant que chaque matin on se lève, ils changent d'avis en fait. Bon bah finalement on va fermer les restaurants, bah non vous fermez pas les restaurants, vous allez fermer peut-être à 23h, donc non finalement vous restez à minuit. En fait ce qui a été dur, moi je parle de la situation actuelle, c'est que moi je dormais pas la nuit déjà, je regardais la télé constamment, je me disais mais qu'est-ce qui va se passer demain matin, est-ce qu'on va ouvrir, est-ce qu'on va fermer? Et là, c'est un peu, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris qu'un restaurant, ce n'est pas un moulin. On n'appuie pas sur un bouton et on l'éteint. C'est pas possible. Là, par exemple, je comprends pas pourquoi il a fait à minuit vendredi, alors que nous avons découvert samedi. Donc là, on a dû annuler des clients, on a perdu beaucoup d'argent. Donc c'est moralement, physiquement très compliqué. Après, je suis dans l'optique d'Amandine Chéniaud, de positiver, de dire que nous, on est en bonne santé, qu'il y a des gens qui vont peut-être perdre la vie à cause du Covid et qu'il faut aussi penser au collectif et pas penser qu'à soi. Et que voilà, il faut être uni, il faut, comme dit Amandine, des fois, il faut se réinventer. Mais c'est vrai que c'est plutôt dur, très dur, très dur moralement. Moi, quand il a annoncé le couvre-feu à 21h, et qu'il n'a pas obligé de fermer les restaurants administrativement, parce que s'il y a une fermeture administrative, on sait qu'on peut se retourner contre nos assurances, qu'on peut avoir peut-être des aides un peu plus importantes. Là, c'est en fait, vous faites ce que bon vous semble. Et c'est très compliqué, un restaurant fermé à 21h. Nous, par exemple, on va prendre la décision de le fermer, mais je ne sais pas si je vais réouvrir. Parce que les aides qui nous ont été accordées ne seront peut-être pas suffisantes à qu'on puisse réouvrir.
Michel Sarran.
C'est ça qui est difficile parce que finalement, effectivement, on n'est pas dans le cadre d'une fermeture administrative et le gouvernement nous incite à prendre des décisions et à se saborder soi-même parce que le fait de dire on couvre feu à 21h, moi à 21h, on prend l'apéritif à 21h. Donc, et je vais pas ouvrir à 6h, à 18h, personne ne viendra.
Exactement.
Donc, moi, je suis bien sûr que je suis une fois de plus très, très sensible à l'action. Solidaire pour essayer d'améliorer les conditions sanitaires, mais ce qui me choque quand même, et même si je veux bien faire confiance au gouvernement, ce qui me choque quand même, c'est par ailleurs d'entendre un président qui incite à partir en vacances, donc qui incite au mouvement, alors qu'aujourd'hui, on paie quand même aussi les débordements qu'il y a eu pendant les vacances estivales. Donc, On a vu, c'est le départ en vacances, là, bon, mais c'est des flux de citadins qui vont aller vers les campagnes. On a un peu de mal à comprendre. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, surtout, c'est pourquoi il n'y a pas une solidarité nationale et que tout le monde soit concerné. Alors, le confinement, on sait que, visiblement, ça coûterait beaucoup trop cher, mais il privilégie la vie économique. Ce sont les mots du président. Il faut privilégier la vie économique, mais la vie économique sur certains secteurs d'activité. Et la nôtre, elle est en stand-by. Moi, je viens de regarder, je vais fermer le soir, mais je pense même que je vais fermer le midi parce que l'équilibre économique n'y est pas. Je viens de faire le compte. Je perds 50 000 euros par mois en étant ouvert le midi. Est-ce que j'ai intérêt à rester ouvert ?
Michel Sarran, vous avez eu des aides et vous en avez encore, la prise en charge à 100% du chômage partiel, le renforcement du fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 20 salariés au chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros et une exonération des charges pour les TPE-PME. Ça n'est pas suffisant, ça ?
Non, mais madame, qu'on soit bien clair, la prise en charge à 100%, c'est faux. C'est à 100%, c'est 84% d'une aide pour le salarié. Il perd 16%. Sur la première période, moi, pendant le confinement, j'ai assuré la différence des 16% pour mes salariés. Je ne voulais pas qu'ils subissent cet écart. Mais par contre, pendant ce temps, moi, je continue à cotiser pour les congés payés sur le chômage partiel. C'est un coût non négligeable pour l'entreprise. Et ça nous coûte pratiquement 10%. On a calculé, c'est à peu près 10% sur les salaires en tout. Donc, c'est pas du 100%. Ensuite, on a rouvert, d'accord, mais on a rouvert après une fermeture de 3 mois. Ces 3 mois qui nous ont coûté de l'argent parce qu'il y a des préfixes qui continuent à courir, parce qu'il y a des loyers, qu'on a des petits bailleurs. Ce ne sont pas tous des grosses structures. Et les bailleurs, ils nous exigent les salaires. Et là, on a rien pour se retourner. Et voilà.
Jonathan Carré.
Les bailleurs, c'est vrai, comme dit M. Sarran, le gouvernement, il disait aux bailleurs de faire le jeu. Moi, mon bailleur, il n'a rien voulu savoir. J'ai dû payer mon loyer. Et il me disait, si tu payes pas ton loyer, c'est facile, un mois, 2 mois, 3 mois, un premier préavis, un deuxième préavis, ça veut dire que j'aurais perdu mon fonds de commerce parce que j'ai pas payé mon loyer. Il y a beaucoup de bailleurs qui n'ont pas joué le jeu, mais pas du tout joué le jeu.
Amandine Chéniaud, sur cette question des aides et des bailleurs.
Alors moi, j'ai de la chance d'avoir un bailleur avec qui je m'entends très bien et on a réussi à négocier de façon tout à fait paisible une baisse de notre loyer pendant les mois de confinement. Mais bon, ça marche une fois, ça va pas marcher deux fois, hein, faut être assez clair. Mais c'est vrai que le problème des CP, pour moi, ça c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé. Michel en parlait tout à l'heure. C'est vrai que quand on a son personnel qui est au chômage, on doit quand même assumer tous les congés payés. Donc c'est une espèce de bombe à retardement. C'est-à-dire que le jour où on récupère notre personnel, on a tous les congés payés qui se sont accumulés. Et là, on n'a pas d'autre choix que de payer plein pot nos salariés le temps qu'ils soient en vacances. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que ça va mettre dans le rouge pas mal d'entreprises.
Oui, je suis d'accord avec toi, Amandine.
Jonathan.
Mais il n'y a pas que non plus les CP. Parce qu'ils disent, bon, ce mois-ci, on va vous reculer la taxe foncière, on va reculer l'URSSAF, on va reculer les crédits. Mais quand tout va reprendre ? Si vous avez 6 mois de loyer, 6 mois d'URSSAF, le PGE qui va reprendre, je pense que dans nos activités, on ne fera pas assez de bénéfices. À savoir, c'est que dans les restaurants gastronomiques, on ne gagne pas forcément d'argent. Si on a, déjà, moi, je ne me suis pas payé pendant 2 ans pour consolider mon restaurant, parce que si je m'étais payé pendant 2 ans, aujourd'hui, l'innocence n'existerait plus.
Vous payez les salaires de vos deux associés ?
De mes deux associés.
Mais pas vous ?
Non. Ça, c'est quelque chose que j'ai choisi. Je n'ai pas voulu me verser de salaire, me sacrifier pendant 2 ans, parce que dans ma tête, je sentais qu'il allait se passer quelque chose. J'étais très marqué par les attentats. Et quand j'ai ouvert mon restaurant, je me suis dit, je veux consolider mon restaurant financièrement pour pouvoir passer, s'il y a un attentat, pendant 4 à 6 mois, je me dis, je suis serein, je peux regarder mes salariés et leur dire, bon, je vais vous verser votre salaire. Parce que pendant les attentats, je travaillais dans un restaurant où mon salaire était versé très en retard. Pas parce que le patron était de mauvaise foi, mais juste parce qu'il n'avait pas de clients et que financièrement, il n'a pas pu se soulever des attentats.
Aujourd'hui, l'innocence a une étoile Michelin, Jonathan Carron, depuis janvier 2020. Michel Sarran, vous êtes doublement étoilé. Est-ce que ça change d'avoir des étoiles ? Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça peut vous aider, l'un comme l'autre, par rapport, par exemple, à Pouliche, le restaurant d'Amandine Chéniaud ?
Nous, ça nous a sauvés. Moi, aujourd'hui, je remercie le Michelin et Gwendaël, parce que si on aurait pas eu l'étoile, pareil.
Elle étant le directeur du Michelin. Ouais. Michel Sarron.
Oui, mais il faut quand même comprendre quelque chose. Le modèle économique de la restauration étoilée. Moi, je pense que j'ai à peu près 50% du prix du repas qui est pour la masse salariale. On a, je fais en gros, 30-35% pour la matière première. Il reste 15% pour les frais fixes, etc. Donc, c'est un modèle économique qui est très fragile. On le sait. Après, on va faire autre chose. Et c'est vrai que les étoiles nous permettent d'avoir des produits dérivés, d'avoir des activités ailleurs, etc. Mais lorsque sur ce modèle-là, vous prenez 3 mois de fermeture et qui vous coûte de l'argent, vous redémarrez avec l'espoir et que tout d'un coup, on vous remet une fermeture, mais en plus une fermeture où on n'est plus en fermeture administrative, donc on ne peut pas se retourner sur les assurances. Assurances qui, quand même, je tiens à le préciser, ne jouent pas du tout le jeu, ne sont pas du tout solidaires de la crise actuelle, parce que nous, on nous demande d'être solidaires.
Vous avez porté plainte en juin, vous avez été débouté, vous avez fait appel, Michel Sarron.
Exactement, mais il y a énormément de dossiers. Hein.
Et moi, je suis encore en procès avec AXA depuis, ça va faire 7 mois.
Il y a énormément de dossiers en cours, hein, comme ça. Donc, moi, il faut, là aussi, moi, j'attends du gouvernement qu'il mette un peu plus de pression pour que tout le monde joue le jeu. Parce que là, aujourd'hui, on est fragilisé. Tout le monde le sait. On a un secteur, la restauration, l'hôtellerie, les bars. Enfin, l'hôtellerie, ils sont restés ouverts. Mais les bars et l'événementiel, on est extrêmement fragilisé. On nous impose des fermetures, mais il faut vraiment qu'on soit aidé et il faut que tous les acteurs puissent nous aider à passer ce moment.
On a besoin d'un peu d'élan, d'un peu de force, comme nous y incite cette petite musique que nous avons récupérée sur le site de l'Innocence, votre restaurant à Paris, Jonathan Caron. Et pour aborder le deuxième temps de cette émission spéciale consacrée à la restauration face à la Covid-19 et aborder la question des idées, des solutions pour relever le défi. Déjà tout à l'heure, vous disiez, Michel Sarron, on prend l'apéritif, nous, à 21h. Eh bien, justement, on aimerait bien savoir pourquoi en France, on dîne à cette heure-ci. Pourquoi on ne fait pas comme les Anglais, c'est-à-dire manger, par exemple, ou même les Allemands dînent un peu plus tôt. Pourquoi on ne pourrait pas manger à 19h? Et pour avoir la réponse à ces questions que nous nous posions dans l'équipe, nous avons fait appel à un de nos plus grands historiens, Pascal Horry. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour Caroline.
Pascal Horry, historien alors de la nation, puisque une monumentale histoire mondiale de la nation va paraître le 5 novembre chez Gallimard, mais pas seulement, puisque vous avez fait aussi de nombreux ouvrages sur la culture, vous êtes un historien de la culture, et sur ces liens entre, disons, la culture gastronomique, puisque vous êtes un gastronome également, et l'identité de la nation. Est-ce qu'on sait pourquoi en France, on mange, disons, relativement tard par rapport à certains de nos voisins européens? De quand ça date et pourquoi?
Ça s'est mis en place, disons, depuis 2 ou 3 siècles, avec quand même un élément important qui est l'évolution de l'économie, puisque c'est très difficile de comparer la situation des repas aujourd'hui avec celle d'une société qui était essentiellement rurale, avec des rythmes qui variaient suivant les saisons, avec le fait que, par exemple, le paysan en standard, vous savez, il ne déjeunait pas à la ferme quand il était en pleine activité, c'était un casse-croûte au coin du champ. Donc les comparaisons sont difficiles avec les temps passés. Non, géographiquement parlant, ce qui est tout à fait clair, il y a des enquêtes maintenant très sérieuses à caractère statistique, c'est que plus on monte vers le nord, pour se limiter à l'Europe, vers donc le nord de l'Europe, les pays scandinaves, mais déjà le Royaume-Uni que vous citiez, bien, plus on mange tôt. Ça, c'est clair. Et la France est un peu à mi-chemin, parce que vous l'imaginez bien, la Grèce, l'Espagne sont bien connus pour manger particulièrement tard. Étant bien entendu qu'après, il y a manger et manger, qu'est-ce qu'on met dans le repas? Et la grande particularité française, c'est moins encore ça, puisqu'on est grosso modo à mi-distance, hein. Non, c'est de continuer à respecter le rythme des trois repas. Et vous savez que beaucoup de pays, comme par hasard les pays plutôt anglo-saxons, plutôt protestants, eh bien, ont déjà quasiment abandonné le déjeuner qui se ramène à 10-15 minutes, vous imaginez. En France, on a la preuve statistique que ça tient.
Est-ce que c'est donc un trait culturel ou national qui peut être amené à changer? Par exemple, si on demande aux restaurateurs, et on va leur poser la question dans un instant, Pascal Horry, d'avancer l'heure de leur service du soir?
Je ne pense pas qu'on puisse modifier en profondeur les pratiques de toute une nation en quelques semaines. Michel Saran disait tout à l'heure, si j'ai bien compris, je ne vais pas ouvrir 18 heures parce que les clients ne viendront pas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait être proactif, mais il est vraisemblable que les clients ne viendront pas, en tous les cas, sur une échelle de quelques semaines. Si ce genre de situation se prolonge sur plusieurs années, bon, on verra. Alors qu'en revanche, Michel Saran aurait un restaurant à New York, mais c'est presque tard, 18 heures. Puisque, effectivement, regardez les spectacles, on parle beaucoup des spectacles, mais les spectacles à Broadway, il commence à 20h parce qu'on dîne à 18h, 18h30. Voyez. Donc il y a effectivement des données complètement différentes. Je pense quand même que le développement de l'individualisme fait que ce qui est en train de relativiser tout ça, c'est le grignotage. De même que le déjeuner pour un salarié à travers le monde, ça se ramène à vraiment très peu de choses, sauf en France, justement, parce qu'il y a un culte. Il y a un culte qui est assumé en France de ce qu'on peut continuer à appeler la gastronomie, même la plus simple, la bistronomie. Mais ça a été déjà jeté aux oubliettes dans beaucoup de pays.
Merci beaucoup Pascal Horry pour ces quelques précisions. Qu'est-ce que la nation? C'est votre livre à paraître aux éditions Gallimard le 5 novembre prochain. Amandine Chéniaud, alors quelles sont les solutions? Vous misez sur le déjeuner? Vous pensez que vous pouvez inciter les Françaises et les Français à venir manger plus tôt, à la sortie du travail?
Déjà, il faut que les clients soient capables de le faire, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas tous capables de quitter le travail sur les coups de 17h, 17h30, voire même 18h.
Ah oui, là, c'est vraiment
donc,
très tôt, là.
Première chose, on a quand même une culture en France de travailler plutôt tard, effectivement. Ensuite, nous, on a quand même une belle clientèle qui arrive en général sur les coups de 19h. Donc, je pense qu'on va essayer d'avancer un petit peu sur les coups de 18h30. Et on va proposer une offre un petit peu hybride. En gros, ça va être venez prendre l'apéro chez nous. On vous fait plein de petites choses à grignoter. Et puis, à un moment, quand vous le décidez, quand il est temps pour vous de rentrer chez vous, vous repartez avec votre cocotte ou votre plat à poser chez vous tranquillement. Voilà, j'ai pas envie que les gens se pressent, j'ai envie que ce soit eux qui décident de leur timing de dîner.
Jonathan Caron.
On a beaucoup réfléchi, parce que faire 8 couverts, seulement le soir, parce que je pourrais pas faire de service.
Parce que vous ne servez pas le midi.
On ne sert pas le midi.
Pour quelle raison?
Parce que ce n'est pas un quartier où le midi, il y a un taux d'influence très important. Ça a toujours été un restaurant du soir. Il faut savoir, dans notre quartier, 97% des restaurants travaillent uniquement le soir. Donc là, avec nos collaborateurs, nos chers voisins, on s'est parlé très tard après la décision
du président.
99% des restaurants vont fermer, totalement. Totalement fermés, parce qu'ils n'ont aucune solution. Moi, je suis quelqu'un de très battant dans ma vie.
Vous avez mis 14 ans avant de monter ce restaurant.
C'est ça, exactement.
Donc vous y tenez quand même.
J'ai mis toutes mes économies dans ce restaurant. Personne ne m'a aidé. Donc non, je ne souhaite pas baisser les bras. Donc on va parler avec mes chefs, parce qu'on prend les décisions à trois, pour essayer de peut-être trouver une formule, un entrée plat dessert, et voir avec le comptable si c'est rentable ou pas.
Aujourd'hui, votre menu du soir, Jonathan Caron, c'est 72 euros. Vous proposez un menu déjeuner le week-end, le samedi midi.
Le vendredi midi, voilà. C'est un menu à 36 euros.
Et à 36 euros. C'est accessible, 36 euros, pour un chef qui a une étoile aujourd'hui quand même. C'est très rare.
En fait, avec mes chefs, on a fait le choix en ouvrant ce restaurant, parce qu'on sait d'où on vient. On vient d'un milieu très très précaire. Et j'ai toujours rêvé, j'ai toujours dit à ma mère, je sais d'où je viens, et je ne vais pas oublier d'où je viens. Ce n'est pas parce que j'ai une étoile que je vais doubler mes prix, tripler mes prix. Je ne vais pas pénaliser les clients qui nous ont donné à manger lors de notre ouverture. Donc on a décidé de ne pas augmenter nos prix et de faire une table midi très accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans un étoilé et leur donner le midi, toute cette passion, tout cet amour qu'on a pour la cuisine. Le midi, je pense qu'un menu à 36 euros, c'est très accessible.
Ça, c'est le midi. Vous ne pouvez pas ouvrir donc plus le midi, puisque dans le quartier, il n'y a pas la clientèle qui viendrait. Est-ce que vous pouvez penser augmenter le prix du soir?
Non, parce que...
Ça changerait quelque chose?
Encore une fois,
vous perdriez cette clientèle à laquelle vous tenez aussi?
Encore une fois, ça serait pénaliser nos clients. Et je vois pas pourquoi on va augmenter nos prix alors que c'est pas la cause, c'est pas nos clients, c'est le gouvernement. C'est les choix du gouvernement qui font qu'aujourd'hui, on est obligé à fermer nos restaurants. On va pas augmenter nos prix, faire payer plus cher nos clients, parce que le gouvernement a fait beaucoup d'erreurs sur cette deuxième vague d'épidémie.
Et la vente à emporter ?
La vente à emporter, c'est très compliqué, parce que moi, par rapport à d'autres personnes, moi, je suis pas le chef. C'est mes chefs, ils ont des salaires qui sont assez conséquents. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je vende énormément à emporter, et je pense pas que je sois réellement rentable.
Michel Sarran, toutes ces solutions, d'autres ?
Vous voyez, c'est très intéressant cette discussion. Nous sommes trois à discuter, et vous avez trois schémas de fonctionnement différents. Ce qui est un petit peu compliqué et difficile à admettre, c'est que finalement, il y a une loi qui tombe pour tout le monde, et entre un fast-food qui pourra travailler très fort jusqu'à 21h parce que finalement, on passera prendre son petit sac pour manger à la maison. Un restaurant gastronomique pour qui l'ADN, ce n'est pas de faire de l'emporter, ce n'est pas de faire justement toute la minutie qu'on va apporter sur une assiette, ce n'est pas la même chose. Donc faire de l'emporter pour même pas maintenir, c'est juste pour maintenir une activité et pour garder les équipes. Mais économiquement, moi je l'ai fait un petit peu pendant le confinement, ce n'est pas rentable. Donc voilà, il y a tous ces cas de figure qui font qu'on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde. Ça, c'est indéniable. Chez moi, les gens, ils passent deux heures et demie. Ils viennent, c'est un moment de détente. D'ailleurs, on l'a vu, après le confinement, les consommateurs et nos clients avaient envie de retrouver ces moments de partage, de retrouver ces moments de plaisir de la table de la gastronomie française, qui est quand même une fierté de notre pays, mais qu'aujourd'hui, on met au pilori. Donc, c'est difficile à admettre.
Merci beaucoup Michel Sarran, merci à vous Amandine Chéniaud, merci beaucoup Jonathan Caron. Juste un mot Jonathan Caron avant de se quitter, un plat que vous mettriez en avant aujourd'hui à l'Innocence ?
Bah, ce soir on va...
Cuisine très végétale à l'Innocence.
Oui, vraiment, autour des légumes, on remercie déjà Annie Bertin qui fait un travail exceptionnel en amont. Un plat, la volaille de la cour d'Armoise. Donc volaille avec le pain Paul, la blette et la charmoula qui est un petit condiment qui vient du Maroc, coriandre, persil et tabasco. Voilà.
Restez ouverts tous les trois.
On va se battre en tout cas.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale des bonnes choses aujourd'hui. Les bonnes choses qui se poursuivent en écoute et en podcast sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Un grand merci tout particulier ce midi à Roxane Poulain qui m'a aidé à préparer cette émission. À la réalisation, c'était Jean-Christophe Francis à la prise de son. Ce midi, Laurie Vachon, excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman. À dimanche prochain.